un grand jour aujourd'hui, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. C'était toujours autrefois, dans mon enfance, une fête d'obligation. C'est-à-dire, c'était une fête où nous étions tenus, évidemment si nous le pouvions. Et peu d'excuses étaient valables. Nous étions obligés, mais tenus, d'assister à la messe en l'honneur de la Vierge Marie et de son Immaculée Conception pour vénérer chez elle cette pureté totale, cet éloignement total du péché. Ce à quoi, au fond de notre cœur, qu'on l'avoue ou non, c'est ce à quoi nous aspirons tous. Nous avons tous, au fond de notre cœur, de notre esprit, de notre âme, un désir d'être pur dans le sens, pas nécessairement sexuel, mais pur dans le sens de toutes nos intentions, pur dans le sens total de notre être. Combien nous sommes heureux quand nous rencontrons quelqu'un qui est pur, c'est-à-dire qui ne pense qu'à bien faire, qui ne pense qu'aux autres, qui est souriant, qui est aimable, aimable. Le mot le dit, hein? Mais qui est aimable dans le grand sens du terme, pas cette petite amabilité à ras de sol, non. Une profonde amabilité, on la trouve parfois quand on voyage à la campagne et qu'on a soif, quand c'était comme ça dans les années 30, on avait soif, on arrêtait chez des gens à la campagne parce qu'il n'y avait pas de restaurant très souvent. Et on demandait l'autorisation de puiser au puits, n'est-ce pas, un peu d'eau fraîche. Et ces gens-là nous accueillaient toujours avec, pas toujours, mais enfin presque toujours, avec une espèce d'amabilité et de grâce, une pureté entourée d'innombrables enfants, dans une certaine pauvreté, et c'était très émouvant. On retrouve cette même pureté chez des gens très instruits. C'est la simplicité du cœur qui fait ça. Et chez la Vierge Marie, je crois que la simplicité du cœur était radieuse. C'est un dogme de foi que de croire que la Vierge a été préservée de tout péché par une grâce très particulière de l'Esprit-Saint. C'est un don exceptionnel. C'est quelque chose de rare, d'unique. Et c'est ainsi que Saint Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes, qui était prêtre, disait honorer la très sainte Vierge comme la plus pure de toutes les créatures et la seule qui sur la terre ait été exempte du péché. Et beaucoup plus tôt, Saint Bonaventure, des siècles plus tôt, disait dès sa conception, c'est-à-dire dans le sein de Sainte Anne, Marie a été immaculée par une faveur spéciale du Saint-Esprit. On peut interpréter ça de deux façons, et nous le verrons tout à l'heure. Il y a une façon plus littérale, si on peut dire, plus traditionnelle, avec tout le respect que l'on doit à la très sainte tradition de l'Église, et une façon plus actuelle de l'interpréter, car, comme dit l'abbé Laurentin, les dogmes sont des vérités que l'Église approfondit sans cesse, grâce non seulement aux théologiens, mais grâce à l'Esprit-Saint qui anime l'Église, qui est toujours là. C'est donc un dogme qui a été défini le 8 décembre 1854. Notre-Dame a été préservée par Dieu lui-même en raison de sa maternité divine à venir, du péché que l'on appelle le péché originel, qui atteint, en principe, selon la tradition, tous les humains depuis la désobéissance d'Adam, que l'on considère, selon toujours cette tradition, comme le premier homme. Il ne s'ensuit pas, évidemment, que l'union de Saint Joachim et de Sainte Anne, parents de la Vierge Marie, a eu quelque chose de miraculeux pour amener la Vierge à être préservée ainsi. La fête de la conception de la Vierge est très ancienne dans l'Église grecque. On la trouve vers 750, l'an 750, au 9 décembre, à Constantinople. Istanbul aujourd'hui, n'est-ce pas? Voici le texte. La conception de Sainte Anne, mère de la Théotokos, Théotokos, ça veut dire la mère de Dieu, mère de la Théotokos, elle est mentionnée dans les canons de Saint André de Crète, mort en 740. Et c'est un texte du fameux père Delehaye qui a écrit ça au début du siècle. Une homélie du moine Jean II B, vers le même temps, énumérait 10 fêtes mariales, parmi lesquelles la conception de Marie. Mais celle-ci n'était pas célébrée partout, notait ce Jean II B. En tout cas, Saint-Luc nous a fourni le thème de l'Annonciation, et puis... Je vous ai déjà parlé des évangiles apocryphes. Là, le protévangile apocryphe de Jacques, ce sont des évangiles qui ne sont pas dans la Bible. Ils n'ont pas été reconnus comme officiels, n'est-ce pas? Et on les attribue à différentes personnes connues, comme Jacques, Saint Jacques, dans ce cas-ci. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, n'est-ce pas? C'est des textes apocryphes, non reconnus par l'Église. Donc, le protévangile apocryphe de Jacques offrait les éléments d'une annonciation à Sainte Anne. Bien oui, une autre annonciation, mais cette fois-ci à Sainte-Anne. Et puis, il y avait des textes, des chants, des homélies qui ont contribué à répandre cette fête mariale, pour ainsi dire, qui a débuté peut-être vers la fin du VIe siècle, d'une manière plus ou moins sporadique, là, dans les petits monastères des moines. Il est possible qu'elle se soit formée en même temps que la célébration, d'ailleurs, de Noël, de la Nativité, et même de la Nativité de la Sainte Vierge, mais en des lieux différents. Les Grecs, d'ailleurs, aimaient commémorer, après une grande fête, le héros du jour. Alors voilà, voyez-vous, après Noël, on commémorait Marie et Joseph. Après l'Épiphanie, là, le 6 janvier, pour nous, c'est-à-dire le jour de la manifestation de la royauté de Jésus quand les rois mages viennent le vénérer, et où on célèbre aussi le premier miracle de Jésus, etc., on célébrait Jean-Baptiste qui l'avait annoncé et qui l'avait reconnu. Et... Après la purification, le 2 février, on célébrait celui qu'avait reçu Marie, c'est-à-dire Siméon. Et on célébrait aussi Anne. Après l'Annonciation, le 25 mars, on célébrait qui? Bien évidemment, l'archange Gabriel. Et puis, bien après la Nativité, c'est-à-dire après la Nativité de Marie, on célébrait Joachim et Anne. La Nativité, c'est le 8 septembre. Alors, je vous fais grâce de tous ces détails, il y en a énormément. Disons simplement que des textes grecs louent avec beaucoup de vénération et la mère et la fille, c'est-à-dire et Sainte Anne et la Vierge. Ils ont fait d'ailleurs de très belles icônes, les Grecs de même que les Russes, représentant Anne et Marie. J'en ai déjà donné une belle, immense, encadrée comme ça aux sœurs de Sainte Anne. La sœur qui dirige le centre Christus à Montréal, ce sont des sœurs de Sainte-Anne qui dirigent ce centre où on peut suivre des cours extrêmement intéressants sur toutes sortes de questions. C'est près du métro Beaubien, le centre Christus. Il n'est pas question dans les premiers siècles du péché originel. D'ailleurs, le terme d'immaculé n'intervient même pas. Plus tard, les artistes byzantins, toujours ces artistes des églises qu'on appelle orthodoxes, les églises orientales, ont représenté Joachim et Anne s'embrassant. C'est assez sympathique, hein? Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus, les parents de Marie, qui s'embrassent sur des icônes. Ou bien, on met deux anges qui viennent vers eux pour leur annoncer sans doute. Et pour symboliser l'intervention de Dieu, alors parfois les artistes ont recours à une nuée, la nuée de l'Ancien Testament. Et aussi, on se réfère à Saint-Luc, l'ange Gabriel. De toute façon, le protévangile de Jacques a été tout le grand pourvoyeur, si on peut dire, de toute cette imagerie qu'ont utilisée les orthodoxes dans leurs belles icônes. Il y avait là des scènes touchantes, comme Joachim, qui est écarté du temple parce qu'il n'a pas d'enfant, ou bien Anne, qui se lamente et qui est consolée par un ange, qui lui promet, en dépit de son vieil âge, une postérité, car la tradition de ces vieux textes, je le répète, qui ne sont pas dans les évangiles, nous raconte que Sainte Anne, la mère de Marie, était très âgée quand elle a mis Marie au monde. Il y avait une fête anglo-saxonne qui semble assez différente de ce qu'on appelle la conception de Sainte Marie, qui est notée au 18 décembre ou au dimanche avant Noël. Et d'Espagne, cette fête est passée dans quelques monastères de France, nos ancêtres, là. Et cette fête était l'équivalent de l'Annonciation du 25 mars. C'était une fête d'Annonciation à Sainte-Anne, qui est disparue. Notre fête, aujourd'hui, du 8 décembre, de la Conception Immaculée de Marie, a été empruntée au monastère grec de l'Italie méridionale ou centrale, au concile de Versailles en l'an 1050, c'est le pape Saint Léon IX qui a recommandé vivement qu'on honore la conception de la Vierge. C'est là, voilà, qu'il y a près de 1000 ans qu'apparaît vraiment l'idée de célébrer la conception immaculée de Marie. La papauté, les papes ont essayé alors un rapprochement avec l'Église orientale. C'était au moment du schisme et de la grande séparation des Églises dites orientales et latines. Alors, le pape Léon IX, espérait que la Sainte Vierge, vénérée comme la Théotokos chez les Grecs, la Mère de Dieu, et ainsi vénérée aussi chez nous de la même façon que chez eux, rassemblerait tous les chrétiens dans une seule Église. Mais ça n'a pas marché. Toujours est-il qu'au début du XIVe siècle, la fête existait presque partout. Et le concile de Bâle, en Suisse, là, dans la 36e session, le 17 septembre 1439, a décidé de la rendre universelle. Donc, ça fait 500 ans et plus que c'est universel. Le pape Sixte IV, un franciscain, a publié des lettres apostoliques en sa faveur. L'apparition, vous vous souvenez, en 1830, de la Sainte Vierge à Sainte-Catherine-Labouré, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Sainte-Catherine-Labouré, qui était une simple petite novice chez les merveilleuses filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul à Paris, sur la rue du Bac. Mais cette apparition, puis la diffusion de la médaille miraculeuse dont je vous ai aussi parlé, médaille miraculeuse en l'honneur de Marie conçue sans péché, ont incité beaucoup d'évêques à demander que l'Immaculée Conception soit définie comme un dogme de foi. Beaucoup d'autres évêques, dont l'archevêque de Paris, s'y sont opposés fermement. Non pas qu'ils ne voulaient pas reconnaître la véracité de cette question, mais considérant qu'il était inutile d'ajouter un dogme. Pie IX a répondu au désir de ses évêques, malgré, comme je viens de vous dire, la froideur de nombreux évêques, surtout des évêques qui vivaient dans des pays protestants ou dans des pays que l'on appelle libéraux. Et alors, par une lettre, Ineffabilis Deo, ce Dieu ineffable, du 8 décembre 1854, il l'a proclamé et il a fait publier un nouvel office en 1863, donc 9 ans plus tard. Et les apparitions de Lourdes, donc, ont été saluées comme une confirmation céleste. Et Léon XIII a décidé en 1879 que la fête serait de première classe. L'art, c'est intéressant de s'y attarder 2 minutes, dans l'art sacré, l'art religieux, on a essayé d'illustrer le mystère de l'Immaculée Conception. Imaginez, c'est pas facile, hein? Alors, on a représenté au 15e siècle Notre-Dame comme la femme de l'Apocalypse. Vous trouverez ça au chapitre 12, verset 1 du dernier livre de votre Bible, l'Apocalypse. On l'a représenté aussi comme la belle du cantique cantiques, des cantiques, n'est-ce pas, chapitre 6, je suis belle, c'est un très beau texte d'ailleurs que l'on récite dans les monastères. Alors il la montre surgissant d'un croissant de lune et rayonnant comme un soleil, ou bien on la montre comme une jeune fille en prière, debout entre les symboles bibliques de la pureté. On a recouru aussi à l'image traditionnelle de l'arbre de Jessé, ses ancêtres, le couronné par la fleur mariale en haut. Et Sainte Anne bénéficiait donc de cette vénération passionnée aussi, hein, de l'Immaculée Conception. Il y a une interprétation de Rubens qui donne de l'Apocalypse une image qui paraît plutôt lourde. Il y a des statues, des tableaux de Ribera, Séville, etc., qui sont assez beaux, mais c'est quelque chose qui est très difficile à représenter, cette Immaculée Conception, mais on la retrouve sur toutes les médailles miraculeuses, d'une façon assez naïve et simple, et qui est très populaire à travers le monde entier. Nous aborderons tout à l'heure jusqu'à quel point on peut accepter l'Immaculée Conception et de quelle façon. Je ne veux troubler l'âme de personne, je me référerai à des très grands théologiens qui ont des imprimatures et des recommandations des évêques et du pape. Voici encore quelques mots sur l'Immaculée Conception. Je tire mes renseignements de plusieurs ouvrages, j'en ai peut-être une vingtaine, j'en ai apporté trois, que je juge être, me semble, parmi les plus sûrs. L'ouvrage du père Pierre Grelot, un des plus grands savants sur ces questions-là, qui a publié il y a déjà plus de 20 ans, chez Desclés, dans une grande maison d'édition de livres religieux, « Péché originel et rédemption » à partir de l'Épître aux Romains. C'est un essai théologique volumineux où il développe très très bien toute la question à savoir qu'est-ce que le péché originel. Et de quoi aurait été préservée Marie en naissant? Or, il dit bien à un moment donné, je vous signale, oh, j'ai oublié de vous le dire, au cas certaines personnes seraient inquiètes, là, qu'il y a un équilopstate signé à Paris du 25 octobre 1972 et un imprimatur du vicaire épiscopal de Paris, 1973, l'année suivante. C'était publié en 1973. Le père Grelot est reconnu comme un théologien sûr, un théologien orthodoxe, catholique, là, un théologien qui ne permet à personne de craindre quoi que ce soit. Il dit à un moment donné, le péché d'Adam ne fait jamais, dans l'Épître aux Romains, l'objet d'un enseignement visé pour lui-même. Il dit, saint Paul, il fait allusion d'une façon latérale, c'est-à-dire par côté, là, pour faire comprendre le rôle de Jésus-Christ. Et écoutez bien ça, il dit, cela ne veut pas dire qu'il n'y attache aucune importance, mais cette importance reste relative. Et il ajoute en second lieu, le péché d'Adam n'est pris en considération que pour éclairer l'état actuel de l'humanité, caractérisé par le règne du péché et de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, dans tout le développement de sa pensée, de la pensée de nombreux théologiens, dont le père René Laurentin, dont l'abbé Pierre Descouvemont, dont je vous ai souvent parlé, qui a écrit « Guide des difficultés de la foi catholique », avec une préface du fameux père Bro, fameux dominicain français, et publié par les éditions du CERF, un immense bouquin de plus de 600 pages, que je vous recommande très fortement, où vous aurez des solutions à toutes sortes de problèmes que vous vous posez. J'ouvre au hasard dans ce livre. Chapitre 24. Les sacrements sont-ils des célébrations comme les autres? Quand vous aurez lu ça, vous courrez vers les sacrements, vous courrez vers le sacrement de la réconciliation et surtout vers le sacrement de l'Eucharistie. Car vous comprendrez à fond ce que l'Église nous enseigne, mais ce que lui aussi nous fait comprendre de façon très claire. Mais il nous parle aussi de la réincarnation. Est-elle compatible avec la foi chrétienne? Il nous parle de toutes sortes de questions, 36 questions comme ça. Et il aborde justement le problème du péché originel de façon absolument magistrale. Et c'est très clair chez l'abbé Descouvemont. Or, le péché d'Adam, ce serait le péché, d'après eux, de l'homme. de tout homme, car nous sommes créés libres. Toutes les femmes sont créées libres. Tout être humain est libre. Pourquoi ? Parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour. Et pour répondre à l'amour de Dieu, il faut que nous soyons libres. Pour que notre conscience s'approfondisse, il faut qu'elle soit libre, autrement nous serions des automates. Nous naissons donc tous, d'une façon ou d'une autre, dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le dis en termes très simples, il faudrait que vous ayez recours à ces beaux textes. Je le dis pour essayer d'être compris plus simplement. Nous naissons dans le péché dans le sens que, dans nos gènes, nous sommes marqués par les péchés de nos ancêtres. Combien d'enfants naissent, on le voit actuellement, affectés par le sida? C'est une évidence, et c'est abominable. Mais même dans un couple tout à fait normal, il y a dans les gènes des marques d'un certain péché. Le poids d'un certain péché. Et de toute façon, dès que nous avons l'âge de raison, nous disons souvent non à ce que nous devrions faire. Et nous grandissons comme ça en nous construisant petit à petit. Et le baptême permet à notre âme de grandir dans le Christ qui vit en nous et nous permet de mieux entendre les paroles de Jésus que l'on entend à la messe, de mieux recevoir l'Eucharistie qui nous fait grandir, de mieux comprendre ce que l'Église autour de nous nous enseigne par la voix de nos parents, des gens qui sont des témoins du Christ. Nous sommes plus sensibles par le baptême puisque nous sommes devenus enfants de Dieu par le baptême. Tout le monde est enfant de Dieu, direz-vous, mais oui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais l'être d'une façon particulière, avec une grâce spéciale, eh bien Marie, dès sa conception, est préservée de toute tâche qui aurait pu venir de ses parents Joachim et Anne. Vous direz que c'est sans intérêt. Peut-être. Moi, je crois que ça a son intérêt parce que c'est un signe que Dieu voulait de cette femme exceptionnelle et la plus grande des créatures de Dieu, qu'elle soit en tout point pure, noble, merveilleuse, sensible, humaine, dans le plein sens du terme, pour pouvoir concevoir dans son sein le Sauveur de l'humanité, le Christ Jésus que nous allons célébrer dans quelques jours, le 25 décembre. Elle en est la mère, mais elle est aussi en même temps la fille toute choisie de Dieu le Père et l'épouse de l'Esprit-Saint. Mêlée intimement au mystère de la Trinité, elle est de tous les êtres créés par Dieu, celui qui devrait nous faire nous réjouir, nous permettre d'aller vers elle comme vers une mère. Elle est notre mère. Elle est, parmi tous les êtres, celle qui est le plus susceptible de s'occuper de nous et de vivre dans l'amour que Dieu nous porte, car elle est pleine de cet amour. Elle est vivante, elle est pour nous tout ce que nous pouvons souhaiter, hormis Dieu lui-même. À Rencontre spirituelle, je vais terminer, au microphone c'est Raymond Beaugrand-Champagne, nous terminons cette petite étude sur l'Immaculée Conception et je voudrais lire ce beau texte de l'abbé René Laurentin dans son court traité sur la Vierge Marie, paru aux éditions de l'Œil il y a de nombreuses années, en 1967. C'est difficile de trouver ça aujourd'hui. Il dit que ce jaillissement de grâce, que n'entrave aucune réticence intérieure, entraîne Marie vers Dieu en un immense élan de foi et d'amour. Selon cette loi, que les créatures les plus comblées de Dieu sont aussi les plus assoiffées de lui. La soif de Marie à l'égard du Très-Haut passe en intensité tout autre désir qui ait jamais existé ou sera jamais. Ainsi parvenue à son comble, l'attente d'Israël reçoit sa réponse. Ce sera l'objet de l'Annonciation qui appartient au chapitre suivant. Mais avant de l'aborder, il importe de signaler un autre aspect du mystère de l'Immaculée Conception. Jusqu'ici, nous avons envisagé ce mystère par rapport à Dieu. Il nous faut considérer la situation qu'il confère à Marie dans l'humanité. Et là, un très très beau texte. Il dit « Par sa totale sainteté, qui renoue avec la royale sainteté de nos premiers parents, Marie s'élève au-dessus de tous les hommes. Seule parfaitement agréable à Dieu, par tout son être et comme par tous ses actes, elle est la première des créatures, la reine de la création. Cette situation royale l'éloigne-t-elle du reste des hommes? Ce serait une grave erreur de le penser. C'est exactement le contraire qui est vrai. Cette reine vit humblement dans le monde des pauvres, royale dans l'ordre spirituel, exempte du péché qui replie et sépare, comblée de la grâce qui épanouit et unit, elle est la plus humble servante, en même temps que la plus haute reine, la plus humble servante, parce qu'elle est la plus haute reine. Je ne voudrais pas terminer sans vous lire un autre texte de l'abbé Laurentin au sujet de Marie, qui est très important pour savoir qui elle est et comment la situer dans le mystère trinitaire. Elle n'est pas membre de la Trinité, elle n'est pas déesse. Elle est comme nous, une créature de Dieu, mais la plus belle. Et voici ce qu'il dit, je tiens à le lire parce que c'est trop important. Ça nous préparera à mieux comprendre Marie à la veille de Noël. Et au début de cette année liturgique, où nous allons la célébrer maintes fois, en particulier le premier de l'an, hein, les développements tardifs de la mariologie depuis le concile de Trente, dit l'abbé Laurentin, c'est qu'ils se sont faits à une époque de sous-développement de la théologie de l'Esprit-Saint, dans la place vide laissée par la pneumatologie négligée, c'est-à-dire par l'étude, justement, sur l'Esprit-Saint. Il y ajoute, ce diagnostic a été fait depuis quelques années, non seulement parmi les non-catholiques, mais aussi à l'intérieur même du catholicisme. Certes, il ne doit pas être exagéré ni interprété unilatéralement, mais le problème se trouve posé par des adages courants dans les milieux mariales, ceux-ci par exemple. Voici des textes que l'on dit au sujet de la Vierge et qui semblent, à l'abbé Laurentin, exagérés. La Vierge forme en nous le Christ. Il dit qu'on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Il faut dire, former le Christ en nous, c'est d'abord et fondamentalement le rôle de l'Esprit-Saint, dit l'abbé Laurentin. Ce n'est pas la Vierge qui forme en nous le Christ, c'est l'Esprit-Saint. Oh, je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais que voulez-vous? Je dis ce que disent des grands théologiens, René Laurentin, docteur Eslet, docteur en théologie, expert du Concile, membre de l'Académie Mariologie de Rome, etc., etc., etc. Hein? On dit aussi à Jésus par Marie, on voit ça souvent, hein? L'abbé Laurentin pose la question, mais ne va-t-on pas à Jésus tout d'abord et essentiellement par l'Esprit-Saint? Si on se fie à Saint Jean, chapitre 14, verset 26, chapitre 15, les versets 13 à 14. On dit aussi la Vierge lien entre nous et le Christ. Or, il dit, lui, que c'est là d'abord une fonction essentielle de l'Esprit-Saint. Ça ne veut pas dire que la Vierge n'est pas un lien entre nous et le Christ, hein? Mais ça veut dire que le rôle principal pour nous unir au Christ, c'est l'Esprit-Saint. Je crains d'avoir blessé des milliers de personnes. Réfléchissez. Prenez votre missel, votre prion en église, ouvrez-le n'importe où. Prenez une oraison. Qu'est-ce qui est dit? Il est toujours dit que c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout se termine comme ça. Tout le temps, et même aujourd'hui. Prenez la première oraison, Seigneur, Père. Ça s'adresse au Père. Quand on dit Seigneur dans les oraisons, je vous le rappelle, c'est Dieu le Père. Seigneur Père, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi purifié, nous aussi, de tout mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est ainsi pour toutes les autres oraisons. Accueille, Seigneur Père, le sacrifice du salut que nous t'offrons, en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché. Accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute, par Jésus notre Seigneur, toujours par Jésus. Tout se fait par Jésus, par l'Esprit Saint. Pour revenir au texte de l'abbé Laurentin, il ajoute « Je ne dirai pas que ces formules sont fausses. » Je vous l'ai dit d'ailleurs tout de suite, quand je vous les ai dites, ces formules. Elles ne sont pas fausses. On ne dit pas ça qu'elles sont fausses. Car la Vierge est étroitement liée à l'Esprit-Saint. Mais c'est ça qui est important et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Tout en gardant tout votre amour pour Marie, tout en restant comme moi votre chapelet tous les jours, tout en faisant comme moi j'ai encadré, mon Dieu, des milliers d'icônes de la Vierge que j'ai distribuées parce que je veux qu'on vénère Marie. Je suis fils de Marie, je l'aime. Mais il importerait, dit l'abbé Laurentin, il importerait d'établir ici le rôle propre et divin de l'Esprit-Saint et de situer à sa juste place le rôle subordonné, c'est-à-dire inférieur, qui est celui de la Vierge dans la communion des saints. Cette révision, toute positive, toucherait notamment le problème de la part de Marie à la rédemption. Le titre de co-rédempteur avec le schème d'association, sinon d'égalité, qui implique la particule co-rédemptrice, conviendrait avant toute chose à l'Esprit-Saint. C'est lui qui est co-rédempteur, l'Esprit-Saint. Il semble paradoxal qu'on n'ait jamais songé à le lui appliquer. On dit jamais de l'Esprit-Saint qu'il est co-rédempteur, et pourtant, alors qu'il est classique de l'appliquer à la Sainte Vierge, dit l'abbé Laurentin. Il en est de même pour la théologie de la médiation. C'est le grand théologien critique Bio, qui est très rigoureux en matière de co-rédemption, qui écrivait que Marie fut constituée par Jésus-Christ sur ses principes pour nous de toute vie surnaturelle. Alors l'abbé Laurentin dit ces expressions ne conviendraient-elles pas d'abord à l'Esprit-Saint, que le Christ a désigné comme source de vie dans l'âme intime du croyant, qu'on se réfère à l'Évangile de Saint Jean, chapitre 7, versets 38-39. Marie est liée à cette source qu'est l'Esprit-Saint, elle qui a donné naissance au Christ, source de salut. Mais on ne peut l'appeler source qu'en dépendance de l'Esprit-Saint. Alors, l'abbé Laurentin termine en disant, on le voit, il ne s'agit pas de supprimer la Vierge, au contraire, mais de la resituer dans son lien vital avec l'Esprit-Saint. Elle est, en effet, la première dans l'histoire du salut à l'avoir reçue, selon l'économie du Nouveau Testament, pour établir le lien fondamental entre le Christ et l'homme, l'insertion première du Christ dans la race humaine. C'est ça qu'on va célébrer, là, à Noël. L'insertion première du Christ dans la race humaine et l'insertion de la race humaine dans le Christ pour la rédemption. Que c'est beau, hein? C'est beau, notre foi, mais encore faut-il la voir comme il faut, hein? Il ne peut y avoir, dit l'abbé Laurentin, que progrès et fructification si l'on va jusqu'au bout de cette lumière. Puis là, il ajoute quelque chose de bien important. Grignon de Montfort, Saint Grignon de Montfort, l'avait saisi. Lui, pour qui les derniers temps étaient non seulement une ère mariale, mais le temps de l'Esprit-Saint. Grignon de Montfort a fort bien dit que Marie est toute relative au Christ. Il faut ajouter qu'elle est toute relative à l'Esprit-Saint. Témoin, signe et lieu de l'Esprit, icône et temple de l'Esprit. Or, vous direz que je charrie aujourd'hui, que je vous raconte des choses un peu compliquées.
Oh, si vous compreniez vraiment, là, tout le monde, là, ce que je tiens à vous faire comprendre, combien nous ignorons l'Esprit-Saint, et que cela chagrine le cœur de Marie. Car Marie est intimement liée à l'Esprit-Saint. Dieu lui-même. Il ne s'agit pas de chagriner Marie. Il s'agit de l'aimer. De l'aimer. Et en l'aimant, de nous rendre compte de ce que c'est, de ce qu'elle est. C'est bientôt Noël. Je vous relis ce beau texte de Jean-Paul Sartre. Voici la Vierge et voici Joseph. Et voici l'enfant Jésus. Vous n'avez qu'à fermer les yeux. Je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. N'oubliez pas que c'est Jean-Paul Sartre qui écrit ça, l'un des plus grands athées du XXe siècle. On dit qu'il se serait converti avant de mourir. La Vierge est pâle, et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux, qui n'a paru qu'une fois sur une figure humaine, car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois, et elle lui donnera le sein. Et son lait deviendra le sang de Dieu, et par moments la tentation est si forte qu'elle oublie qu'il est Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « Mon petit ». Mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite et elle pense « Oh, Dieu est là. » Et toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments devant ce fragment de leur chair qu'est leur enfant. Et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie et qu'habitent des pensées étrangères. Mais aucun enfant n'a été plus rapidement arraché à sa mère car il est Dieu. Et il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Il y a d'autres moments, rapides et glissants, où elle sent à la fois que le Christ est son Fils, son petit à elle, et qu'il est Dieu. Elle le regarde et elle pense, « Ce Dieu est mon enfant, cette chair est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux, et cette forme de sa bouche est la forme de la mienne, il me ressemble. Il est Dieu. » Et il me ressemble. Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu qui sourit et qui respire. Un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie si j'étais peintre. Et j'essaierai de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont elle sent sur les genoux le poids tiède et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie et Joseph. Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange, et 2 yeux brillants, car je ne sais pas dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore, il est heureux d'adorer, et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera pour apprendre à accepter. Demain, c'est l'anniversaire du décès à Beaune, en France, d'Adolphe Retté, qui était né à Paris le 25 juillet 1863. Il a écrit son autobiographie, il lui a donné ce titre étrange, « Du diable à Dieu ». Il est toujours demeuré un peu violent de caractère. Il avait un ton souvent dépourvu de gentillesse malgré sa conversion. Ça pourra consoler certains d'entre nous. Mais on ne peut pas faire autrement que d'être touché par Adolphe Retté. C'est un poète symboliste, c'est un ami de Mallarmé. Il a collaboré au Mercure de France. Il s'est converti au catholicisme en 1907. Et depuis lors, il n'a pas cessé de vivre et d'affirmer sa foi. Il est mort chez les bénédictins de Beaune. Donc, il a écrit du diable à Dieu, je cite les ouvrages principaux à partir de sa conversion, un séjour à Lourdes, dans la lumière d'Ars, quand l'esprit souffle, alors vous voyez le genre, hein, ceux qui saignent, et aussi une sainte Marguerite Marie qui a fait sensation, et le soleil intérieur, quel beau titre, puis la maison en ordre, c'était son dernier livre. Il est mort 7 ans plus tard. Je vous lis quelques extraits de Les Miracles de Lourdes. Réfuté par les faits en ce qui concerne l'action de l'eau froide, l'autosuggestion par exaltation religieuse, l'influence magnétique de la multitude des foules, les matérialistes se dérobent par la phrase suivante. Voici ce que les matérialistes à l'époque disaient des miracles de Lourdes, n'est-ce pas? Ce qui opère dans les miracles de Lourdes, c'est une force surnaturelle encore inconnue, mais que la science expliquera bien un jour ou l'autre. Alors, notre Adolphe Rété converti écrit « J'ai bien peur qu'il ne s'illusionne, car jusqu'à présent, dès qu'il s'est agi des causes, la science n'a fait que remplacer une théorie par une autre et classer sous de nouvelles nomenclatures de phénomènes immuables depuis les origines. » Et là, dans son texte, il parle des guérisons des âmes. Il se produit à Lourdes chaque année des centaines de conversions. Tel qu'il était venu en sceptique, parfois en spectateur goguenard, c'est-à-dire grognon, là, s'en retourne catholique pratiquant, imprégné de la grâce à jamais. Et je crois que c'est là l'importance des lieux de pèlerinage, de nos lieux de pèlerinage, à Marie en particulier. C'est que souvent, on va là en grognant, on est entraîné là, on ne sait pas trop pourquoi, et on y trouve une telle grâce. Moi, je l'ai trouvée à Lourdes comme je l'ai trouvée à Notre-Dame-du-Cap. On la trouve partout en France, dans tous ces lieux de pèlerinage à la Vierge, une grâce. Je me souviens d'être allé à Notre-Dame-du-Cap avec ma mère qui était en fauteuil roulant. Elle était tellement heureuse en revenant de là parce qu'elle avait rencontré d'autres personnes qui souffraient comme elle et qui étaient heureux et qui souriaient et qui lui ont souri. Elle a rencontré des gens bien portants qui l'ont entourée de soins, qui ont poussé son fauteuil, qui lui parlaient, qui lui demandaient qui elle était, qui s'intéressaient à elle, car souvent on ne s'intéresse à personne. Alors ce sont aussi des miracles de l'ordre le plus élevé que ces retours à Dieu, écrit Adolphe Rété. Ces retours à Dieu de pécheurs dont l'infirmité n'était pas moindre que celle des paralytiques et des aveugles. Il ajoute, on gisait dans les ténèbres du péché, on se relève soudain dans la lumière divine. Et c'était son cas. Hein? En somme, il parle de sa propre conversion, il en parle en termes absolument merveilleux. Il continue en disant, par profession, voici tout à l'heure 25 ans que je fais de la psychologie. Or, je puis vous garantir qu'il n'est pas d'opération de l'esprit relevant des lois naturelles, ni surtout de l'autosuggestion, qui soit en mesure d'expliquer un changement aussi radical. Chez le converti, c'est le surnaturel, c'est la grâce seule qui agisse. Et quand je parle de conversion, j'ai peut-être le droit de me montrer aussi affirmatif, connaissant de la façon la plus intime quelqu'un qui fut l'objet de cette faveur d'en haut. Il parle de lui-même. Laissons donc la science athée se débattre parmi ses négations et ses ricanements, puisque tandis qu'elle multiplie les outrages à l'adresse de celle qui écrase la tête du vieux serpent d'orgueil et de révolte, c'est-à-dire la Sainte Vierge, la Vierge Immaculée, nous pouvons nous écrier avec le poète « En quel temps fut jamais plus fertile en miracle ?» et « quel temps fut jamais plus fertile en miracle ?» C'est vrai qu'il y a encore des miracles et les gens s'imaginent toujours que ce n'est pas vrai. Je vous en ai raconté de vrais qui se sont déroulés à Lourdes. Hein? Souvenez-vous, je vous en raconterai d'autres. Et il termine en disant, Adolphe Rété, « Et n'est-ce pas le plus prodigieux des miracles que la persistance et la miséricorde divine à l'égard de notre pays, la France? Depuis plus de 100 ans, des égarés et la bouche débordante de sophismes et de blasphèmes tentent de détruire la religion. Ils s'emploient tant ils emploient tantôt la ruse, tantôt la violence pour ravir les âmes à l'Église. Et cependant, immuable en son amour, Dieu nous donna un nouveau gage de son alliance en envoyant sa mère parmi nous. Et je crois que c'est là le rôle de Marie, hein? C'est de nous solidifier dans la foi. Quand on le lui demande, on l'obtient. C'est étonnant. Je me souviens quand je suis allé à Lourdes, je ressens les mêmes sentiments qu'Adolphe Rété dans la fin de son texte. Là-bas, dans une petite grotte de la montagne, la Sainte Vierge demeure en permanence. Là-bas, les cierges brûlent jour et nuit. Là-bas, c'est un élan perpétuel de prière. Là-bas, c'est le foyer de la grâce se répand sur notre pays. Et c'est bien vrai que de Lourdes comme des lieux de pèlerinage ou des endroits où nous vénérons Marie, et Dieu sait qu'il y en a des milliers dans le monde, on trouve des grâces toutes particulières. C'est aussi la fête aujourd'hui de Saint Noël Chabanel. Noël Chabanel, compagnon de Saint Charles Garnier, qu'on a célébré hier. Ils étaient tous les deux à Saint-Jean, à cet endroit, pour s'occuper des Hurons. Il avait reçu, lui, l'ordre de rentrer à l'île aux chrétiens. Parce que les Mohawks, les Iroquois s'en venaient. Ils venaient de quitter le bourg et en passant par le village voisin de Saint-Mathias, où œuvraient deux autres confrères, les pères Garot et Grélon. Alors accompagné de 7 ou 8 Hurons, il avait, le 7 décembre, marché déjà 6 lieues. Et au milieu de la nuit, il aperçut les cris des vainqueurs de Saint-Jean qui approchent. Alors il est tenté de suivre ses compagnons dans leur fuite, mais il s'est arrêté épuisé. Et le seul qu'il ait vu depuis, c'est un Huron, jadis chrétien, mais apostat. Ne l'accusons pas d'être un apostat, hein? Je vous ai bien parlé de ça l'autre jour en parlant des martyrs japonais. Serions-nous pas nous-mêmes apostats devant le fait d'être martyrisés, hein? Alors cet apostat qui avoua plus tard ce que l'on soupçonna tout de suite, c'est-à-dire que l'ayant assommé, puis jeté dans la rivière, il avait ainsi assouvi sa haine pour la religion chrétienne, qui, disait-il, n'avait apporté à lui et à sa famille que malheur sur malheur. Et il se procurait en outre sans frais la couverture, les chaussures et le sac du missionnaire. Être un martyr dans l'ombre, c'était l'idéal de Saint Noël Chabanel. Et voilà qu'il est mort un 8 décembre, il y a des siècles, pour sa foi, un autre jésuite. Je termine en vous rappelant que le 8 et le 10 décembre, il y a quelques années, en 1977, sont disparus en Argentine, victimes de la répression militaire, les sœurs françaises Alice Daumont et Léonie Duquet. Et ils ont été assassinés comme ça. Le 8 décembre, sœur Alice est enlevée au sortir de l'église Santa Cruz de Buenos Aires par le capitaine Alfredo Astiz, infiltré sous le nom de Gustavo Nino dans le mouvement des maires de la place de Mai, constitué en avril précédent. Ce mouvement rassemble des mères de disparus, luttant de toutes leurs forces pour que leurs enfants leur soient rendus en vie. Et 14 autres personnes sont enlevées en même temps que cette religieuse, dont la présidente du mouvement, qui est disparue depuis. Et c'est le 10 décembre que sœur Léonie est enlevée à son tour, sous le seul prétexte qu'Alice Daumont logeait de temps en temps chez elle. Ce sont des sœurs françaises, des religieuses, que nous pouvons invoquer aujourd'hui, car elles sont mortes comme des saintes. Je vous laisse là-dessus, et j'espère que vous allez à l'Église aujourd'hui vénérer Marie Immaculée en participant à l'Eucharistie.